Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'émission Les Faramineux. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Et normalement, j'aurais dû avoir comme chroniqueur Mathieu Tessier, qui est là d'ailleurs. Salut Mathieu, parce qu'il est à la technique aujourd'hui. Et je vais avoir... D'ailleurs, j'ai droit à deux personnes à la technique. Il est avec Nicolas Zwartmann. Salut Nicolas, qui va être notre technicien pendant les deux semaines qui suivent. C'est ça? Alors, bienvenue à toi. Pour te remplacer aujourd'hui, puisque toi, tu seras là jeudi, Louise Véronique Sicotte va être avec nous pour sa chronique « Mon regard grand écran ». Ça vous dit tout de suite? Oui, on parle cinéma. On va parler du documentaire de Eve Lamont qui s'appelle « La COP de ma mère » et du film « Les oiseaux ivres » qui représente le Canada dans la course aux Oscars. Ouh, yeah! Et dans la deuxième partie de l'émission, dans le cadre du Festival des couleurs, puisque ça se passe ce week-end, 8, 9, 10, nous recevons la musicienne et chanteuse Elisabeth Blouin-Brathwaite. Donc, pour démarrer cette belle émission, on commence avec Emma Peters qui nous chante « Le temps passe ».
Je veux pas que le temps passe. Je sens que je t'oublie un peu. Bientôt y aura plus une trace de ce qu'on était tous les deux. Souvent j'ai fait des blackouts trop alcoolisés. J'ai fait couler des larmes et ça je préfère oublier. Mais là j'ai pas décidé. Depuis que tu m'as quitté, j'ai peur de tout oublier. D'oublier qu'on s'est aimé. L'odeur de tes draps froissés s'efface petit à petit. Et quand on me demande si je te connais, moi je sais plus dire oui. Mon cerveau fait le tri. Est-ce que mon cœur aussi? Moi je veux pas que le temps passe. Je sens que je t'oublie un peu. Bientôt y aura plus une trace de ce qu'on était tous les deux. Moi je veux pas que le temps passe. Je veux me rappeler de tes beaux yeux. J'ai peur que ta voix s'efface. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Mes potes me disent de tourner la page et d'avancer. Mais quand le film est beau, je veux encore le regarder. Chant contre chant, j'oublierai notre premier feeling. Ça floutera les plans de nos scènes de cul dans la cuisine. Moi, je suis un peu brisée. Toi, t'es un peu triste. Tout va se réparer. J'oublierai même que t'existes. Mon cerveau fait le tri. Est-ce que mon cœur aussi? Moi, je veux pas que le temps passe. Je sens que je t'oublie un peu. Bientôt y aura plus une trace de ce qu'on était tous les deux. Moi je veux pas que le temps passe. Je veux me rappeler de tes beaux yeux. J'ai peur que ta voix s'efface.
Alors voici Louise Véronique Sicotte. Bonjour Louise Véronique.
Bonjour Arlette.
Tu vas bien?
Très bien, et toi?
Alors, je vais bien, j'ai hâte à ta chronique, mon regard grand écran. Donc on commence à parler d'un premier documentaire, du documentaire de Eve Lamont, qui est La COP de ma mère.
Eh oui.
Alors qu'est-ce que c'est? Raconte un peu.
La COP, on parle de coopérative d'habitation. Hein? Alors, oui. Les coopératives d'habitation, ça existe quand même depuis plusieurs années, mais c'est une incursion dans celle de sa mère, à Gatineau. Et une coopérative d'habitation, ben, entre celle de Gatineau, la coop Saint-Louis, c'est une quarantaine de résidents qui habitent dans cette coopérative répartie sur quelques bâtiments. Et elle a filmé les résidents, les membres de la coop, sur une période de 2 ans. Bien sûr, là, Arlette, avant la pandémie, hein, parce qu'on vraiment beaucoup de réunions.
Oui, je comprends. Mais en fait, c'est un endroit... Moi, j'en ai entendu parler. J'y ai jamais habité personnellement. Je m'en suis jamais approchée. C'est un endroit donc où on a des logements qui sont à un prix beaucoup plus abordable que ceux qu'on peut trouver à l'extérieur.
Oui.
Mais en contrepartie de ce prix très abordable, on doit procurer une aide au sein de l'immeuble. C'est ça?
En plein ça, oui. C'est un peu, je dirais, une troisième voie entre la propriété et la location. Les membres de la coopérative sont à la fois locataires, mais aussi d'une certaine façon propriétaires.
D'accord.
Et c'est dans le principe même et la philosophie des coopératives qu'ils doivent se considérer aussi comme propriétaires. En fait, ils ont une responsabilité dans toute l'organisation de la coopérative. C'est comme un peu un village, une mini-société, hein. Et ils doivent vraiment être engagés dans leur société, dans leur communauté. Alors, c'est pour ça qu'il y a différents comités. Alors, dans ce film-là, on voit un peu comment ça fonctionne, le principe d'une coopérative, de celle-là en particulier.
Oui.
Et sa mère, qui est une femme très engagée, très féministe, très, très lucide et franchement une femme tout à fait magnifique, qui est le fil conducteur.
D'accord.
Alors, on la voit donc dans différents éléments, dans ses tâches aussi, parce qu'elle elle aussi fait partie d'un comité. Et on va aussi découvrir certaines personnes, certains membres qui vont un peu nous dévoiler leur parcelle de vie. C'est une coopérative qui est très particulière parce qu'elle est à la fois interculturelle, intergénérationnelle. Il y a vraiment...
Il n'y a rien de mieux pour faire un lien et pour arriver justement à échanger avec les autres, parce que trop souvent... nous sommes des moments dans nos immeubles respectifs, pour ceux qui n'ont pas de maison avec jardin, et on ne connaît pas obligatoirement nos voisins.
Oui, c'est une grande richesse qu'ils partagent.
Ah oui, c'est vraiment intéressant.
Ah oui, oui, donc il y a des familles, il y a des personnes âgées, il y a des nouveaux arrivants, entre autres de la Colombie, la Somalie, il y a une personne handicapée aussi, et on va faire un peu... une rencontre avec ces personnes-là.
D'accord.
Et qui vont nous raconter aussi pourquoi elles sont là, pourquoi elles sont membres, et un petit peu leur parcours de vie également. Et puis aussi, on va voir, des différentes étapes de ce que c'est qu'une coopérative.
Oui, c'est ce que j'allais dire, comment ça se passe pour pouvoir rentrer dans une coopérative.
Ben oui, les assemblées annuelles, les corvées de nettoyage, les gens qui font leur tâche, qui accomplissent leur tâche dans leur comité, que ce soit l'entretien, hein, réparer des serrures, comment aussi informer les nouveaux membres, hein, aussi de tout ce qu'ils ont à faire. Ce que je retiens de ce film, c'est que ce sont des gens qui partagent le même désir de partage, de l'engagement, des gens de cœur. Et tu sais, on dit que souvent ça prend un village pour élever un enfant. Ben, c'est un peu ça qu'on retrouve dans ce film. Évidemment, tout n'est pas rose, hein? C'est pas toujours dans l'harmonie, mais ces gens-là ont le désir que ça fonctionne. Fonctionne.
J'ai envie de dire que c'est comme dans une famille. Hein?
Oui.
L'harmonie n'est pas toujours là, mais on s'arrange pour la remettre, en tout cas, l'harmonie.
C'est une grande famille de 40 membres.
Ah oui, donc c'est super intéressant. Et ça, elle l'a fait parce que tu dis sa maman était là, donc elle a eu envie de faire connaître ce que c'était. Comment, dans les 2 petites minutes qui nous restent, là, comment on rentre dans une coop? Il faut avoir...
Il faut soumettre une lettre d'intention, remplir un dossier et ensuite passer à un comité de sélection.
Hein. Oui, d'accord.
Alors, j'ai déjà fait le parcours.
Ah, tu l'as fait personnellement, d'accord.
Oui, oui. J'aimerais aussi souligner la musique de Marcel M. Lepage. et qui apporte beaucoup de gaieté dans ce documentaire. C'est de l'accordéon, mais ça crée un côté très fort, sympathique à l'ensemble. Oui. Et juste rappeler que Eve Lamont, c'est une cinéaste, une camerawoman, une documentariste qui travaille dans le domaine depuis 20 ans et qui a toujours fait du cinéma engagé sur toutes sortes de sujets, hein, l'égalité homme-femme, la justice sociale, le droit au logement. Alors, c'est un documentaire qui va être à l'affiche à partir du 15 octobre. Et c'est quand même un modèle positif. On a besoin de ça. On parle beaucoup de la crise de logement, Arlette.
Ah oui, mais ah oui, parce que maintenant, ça devient énorme, les locations des appartements. C'est un truc c'est de la folie, quoi.
Ouais. Alors ça, c'est un côté très positif, un modèle inspirant, je pense. Une coopérative située à Gatineau, la coop Saint-Louis, qui fonctionne avec des êtres vraiment merveilleux, je dirais. Henri Pierre, qui est un peu le grand-papa à tout le monde, plein d'humour et de tendresse. C'est vraiment des personnes qui sont des personnes de cœur.
On peut le voir où, ce documentaire? Il va sortir quand, d'abord?
Le 15 octobre.
Le 15 octobre, d'accord.
Oui. Au Cinéplex, mais il y aura, j'imagine, je ne sais pas, je peux pas vous dire exactement dans quel cinéma.
D'accord.
Mais c'est à surveiller. Bon. Je pense que c'est un film qui fait du bien, qui montre une société qui travaille pour l'ensemble de la collectivité.
J'en doute pas une seconde, en tout cas ça donne envie d'aller le voir. Avant qu'on parte en musique, juste un petit mot que je me permets de te dire, c'est-à-dire comme on ne peut pas tous être en coopérative, peut-être réfléchir au fait de se louer des grands appartements et faire de la colocation. Pourquoi pas, pour tout le monde, pas seulement pour les étudiants. C'est aussi un sujet qui pourrait être pris en compte aujourd'hui. Voilà.
Oui, donc revoir les modèles.
Oui, revoir notre vie. Reste avec nous, on écoute Gaëtan Roussel qui nous chante Help Myself et puis on revient après pour que tu nous parles des oiseaux ivres. À tout de suite.
S'arrêter si on nageait sans respirer, aurons-nous de l'air cet été? Tout le monde cherche à s'échapper.
Help myself.
prendre le temps de s'arrêter.
Ouais. Alors prenons le temps de nous arrêter, prenons le temps de recommencer. Louise Véronique, partons avec Les oiseaux ivres. Qu'est-ce que c'est ce film?
Alors on est dans un autre univers totalement. C'est un long métrage réalisé par Ivan Grovic, j'espère bien le prononcer.
Je préfère que ce soit toi qui le prononce que moi.
Et puis, il a été aussi bien scénarisé par le réalisateur, mais aussi co-scénarisé par Sarah Michara, qui en signe la direction photo. Et ça, c'est très important de souligner la direction photo, parce que ça a beaucoup d'importance dans ce film qui est absolument cinématographique, si on peut le qualifier ainsi. D'ailleurs, pourquoi je vous en parle? Parce que c'est le film qui a été sélectionné par le comité de sélection pour représenter le Canada aux Oscars.
Waouh!
Dans la catégorie du meilleur film international. Évidemment, c'est la première étape de sélection, mais
oui,
quand même.
Mais c'est déjà bien.
C'est déjà bien. Et il faut dire que ce réalisateur, c'est seulement son deuxième long métrage.
Ah, OK, waouh!
Il avait réalisé le premier Roméo 11 il y a 10 ans. Alors, qu'est-ce que ça raconte, Les oiseaux ivres? C'est. Je dois dire que c'est un film au récit assez complexe, parce que, bon, les langues, le français et l'espagnol, se mêlent durant tout le long du récit.
Ah, d'accord.
Mais aussi, les destins s'entremêlent. En fait, d'abord, celui de Willy. Willy, c'est un jeune Mexicain qui se fait engager comme travailleur saisonnier dans une ferme près de Montréal. Et son destin va croiser celui de la famille propriétaire, interprété par Claude Legault, Hélène Florent, et leur fille, Marine Johnson. Alors, d'abord, il faut souligner que l'acteur principal, c'est Jorge Antonio Guerrero.
D'accord.
Excusez la prononciation de mon espagnol, mais voilà.
Mais si tu as dit que c'était en anglais et en espagnol?
Non, en français.
En français et en espagnol, d'accord.
Oui, 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 parce que...
C'est sous-titré pour l'espagnol?
Oui.
Oui.
Oui, oui. Et c'est donc un... Comment dire, donc, la réalité des travailleurs saisonniers, tu sais, qui viennent au Québec,
oui,
parce qu'on manque de main-d'œuvre. Mais c'est plus que ça, parce que, évidemment, il y a beaucoup de mystères dans ce film. Les raisons pourquoi Willy vient au Québec, ce n'est pas seulement pour travailler, c'est pour rechercher quelqu'un qu'il a perdu de vue depuis longtemps.
Ah, d'accord.
Et je dirais que dans ce film-là, il y a plusieurs barrières de communication, la barrière de la langue. Mais aussi, bon, il y a le mutisme de certains personnages, les secrets, les non-dits. Et ce qui est particulier dans ce film, c'est que il y a des scènes très oniriques, très magiques, qui sont intégrées dans un contexte très réaliste.
D'accord.
Quand je parlais tout à l'heure de la direction photo, il y a des scènes tout à fait magnifiques parce que les plans très larges, on passe du désert mexicain à la campagne québécoise, au centre-ville de Montréal. Et il y a certaines intrigues, bien sûr. Comme je vous disais, c'est assez complexe comme film et comme récit. J'aimerais souligner la performance de Claude Legault.
Ah oui?
Oui, qui fait le propriétaire de la ferme,
oui,
dans une scène de très, très forte tension, sous une pluie complètement diluvienne. Et il y a vraiment une performance d'acteur dans cette scène-là. Il y a aussi Hélène Florent, qu'on peut voir dans le film Maria Chapdelaine. Hein?
Oui, bien mm-hmm. sûr.
Et Marine Johnson, qui interprète leur fille Léa, qu'on a vue dans La déesse des mouches à feu, et il y a quelques années aussi dans La petite fille qui aimait trop les allumettes. C'est un rôle aussi très exigeant pour elle. Alors, moi, je dirais que c'est un film qu'il faut voir. C'est pas nécessairement film facile, film complexe, mais qui mérite bien sûr d'avoir été choisi pour représenter le Canada.
Parce
D'ailleurs,
que...
le film sera présenté au Festival du Nouveau Cinéma et par la suite. Une sortie le 15 octobre également.
D'accord. Donc quand on parle de le film, il est vu de l'œil du saisonnier qui arrive au Canada ou il est vu des deux côtés?
Ben, en fait, c'est que chacun a son intrigue, son histoire personnelle. Et on se demande...
Leurs histoires se croisent?
Oui, les histoires se croisent, les destins vont se croiser. On se demande, moi, la mère Hélène Florent, qui est interprétée par Hélène Florent, vit quelque chose de très particulier, relation de couple difficile et tout. Et ensuite, on voit vraiment ce qui se passe du côté de Willy, de ce qui s'est passé au Mexique.
Willy, ça, c'est celui qui arrive du Mexique, le saisonnier.
Oui, ce qui s'est passé avant qu'il vienne au Québec. Et là, les destins vont se croiser parce qu'on a l'impression que ce sont des histoires séparées. Mais tout va prendre forme vers la fin.
D'accord. Tu nous mets l'eau à la bouche sans nous en dire trop, donc c'est un petit peu énervant, mais on pardonne.
C'est énervant, mais je ne veux pas vous en dire trop. Mais aussi, il y a une fin ouverte qui donne place à beaucoup d'interprétations, je dirais. Et il y a une belle montée dramatique. Les acteurs sont vraiment...
Alors, je vais te poser une dernière question avant qu'on termine, dans le sens de, tu sais ce que c'est qu'un saisonnier, tu avais ton idée des saisonniers, qu'est-ce que ça t'a appris ce film?
Ben, je trouve que les travailleurs saisonniers ont beaucoup de courage de quitter leur famille, et c'est ce qu'on voit dans le film, ils forment une communauté assez serrée parce que...
Oui.
Ils sont seuls ici. Hein.
Ah oui, oui, oui.
Et
quand en plus il y a la barrière de la langue, alors je t'en parle même pas.
Leurs habitations où ils vivent, leur travail aussi très ardu. Et ils se questionnent aussi sur pourquoi ils sont là. Ils se sentent, en fait, il y a un personnage qui dit qu'il est deux personnes. La personne où il est au Mexique et la personne qu'il est au Québec.
Oui.
Les deux aspects de lui. Mais la vraie personne, c'est quand il est au Mexique.
Ben, c'est là où il a tout vécu. Donc là, il est obligé de s'adapter à la vie d'ici. Donc il ne peut pas être vraiment lui-même non plus tant qu'il n'a pas fait son trou, quoi.
Oui, c'est ça? Aussi la barrière de la langue, hein, aussi.
Oui. Je disais, c'est pas évident. Et puis alors, pour ceux qui doivent apprendre, encore une fois, je fais juste le parallèle de me dire que pour ceux qui doivent apprendre la langue française, bravo, quoi. Moi, je préfère être née dedans. Hein. C'est vraiment plus facile.
Ah, oui. C'est sûr que c'est un film, pas un documentaire, mais par le biais, on voit quand même...
Comment ça se passe. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Louise Véronique, et bravo, nous dit Mathieu. C'était très intéressant, l'un comme l'autre, tu nous donnes envie de les voir.
Pardon?
J'ai dit, l'un comme l'autre, tu nous as donné envie de les voir. Donc,
tant mieux, vous savez, c'est mon regard sur grand écran.
Voilà. Donc, on se retrouve avec cette chronique-là le mois prochain, avec d'autres films ou documentaires. Merci beaucoup pour tout ça. À très bientôt.
À très bientôt, Arlette.
Et puis, on se quitte avec Alex Burger qui nous chante « Sweet Montérégie ».
Dans un village près de chez vous, les montagnes ne se prennent pas par la main, mais ça jase pas trop fort à son voisin. Non, ça jase de prix de gaz à tour de bras, à tour de bras, autour de café, crème ici et là. Les étés sont cruels et les Montérégie. sais que j'ai brûlé mon auréole. Je te jure, tu peux me croire si je te raconte que tu peux tout voir à la commande à l'auto. Une bataille où tu gros fan, la racaille ou de nouveau chum. Dans tous les cas, prends ton le trio avec ça. Sweet, 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 sweet.
Eh bien, nous finissons cette première moitié d'émission et la deuxième moitié, comme prévu, c'est Elisabeth Boin-Bradbrett qui va être avec nous alors dans un instant. Mais en attendant, j'aurais aimé savoir, dans les quelques secondes qui nous restent, Mathieu Tessier.
J'écoute.
Est-ce que ça t'a donné envie d'aller voir ces films-là ou un plus que l'autre ou...
Les vendanges et la vie de Bohème des oiseaux.
Ça te tente.
C'est ce que j'ai entendu parce que je suis un peu occupé en ce moment. Mais
d'accord, donc t'as pas entendu qu'on a parlé de la COP.
Vous écoutez Les Faramineux avec Arlette Farah.
Sortir d'Afrique au Canada, le long de la route au Canada.
Et voilà, on vient d'entendre Elisabeth Blouin-Bratvoet qui nous chantait Toutes les mamas et elle est avec nous. Bonjour Elisabeth.
Bonjour, comment ça va?
Ben, ça va bien, on est très heureux de t'avoir avec nous.
Alors, très heureusement aussi.
Dis-moi Elisabeth, bon, on va parler du Festival des couleurs tout à l'heure, mais pour l'instant, quand je regardais un peu tout ce que tu as fait, j'ai envie de te dire que toi vraiment, t'es née dans la musique, quoi.
Oui, vraiment.
On peut pas faire plus tôt.
Non, c'est ça. C'est drôle parce que je parlais justement, j'avais une autre entrevue aujourd'hui, puis on parlait du lien de mes parents, puis qu'est-ce que mes parents m'ont apporté musicalement dans ma vie, puis... Je suis tellement chanceuse d'avoir été entourée de musique toute ma vie et je le suis encore. J'ai fait beaucoup de belles rencontres à cause de ça, donc merci la vie.
Ben oui, puis tu la scène, j'ai envie de te dire que la scène fait partie de ta cour de récréation parce que tu as commencé super tôt.
Oui, j'ai commencé très tôt. En fait, je pense que ma première performance sur scène, j'avais 4 ans avec ma mère dans une église. Oui, on peut le retrouver sur YouTube. On a chanté une chanson qui s'appelle « Il est né le divin enfant ».
D'accord.
Et puis, ça, c'était pour Noël. Puis moi, j'avais 4 ans, puis je tenais absolument à pas faire la liaison. Fait que je disais, il est né le divi enfant. Je faisais des choix. Mais c'est ça. Puis après ça, j'ai continué en musique. Puis j'ai même pris un temps à 14 ans pour aller étudier mon art. Donc, j'allais étudier en piano classique et en théâtre musical.
En théâtre musical, c'est-à-dire, tu jouais des pièces tout en chantant?
Oui, en fait, c'est des comédies musicales.
Comédies musicales.
Quand on étudiait en théâtre musical, c'était à l'école qui s'appelait l'ESTEM, École supérieure de théâtre musical. Et puis, on avait des cours de danse, on avait des cours de chant, des cours de solfège, de musique, des cours de théâtre, des cours de plein de trucs, juste pour être vraiment... versatile dans n'importe quelle branche.
Mais c'est quand même bien de ta part parce que tu commences très très tôt, tu es sur les planches très très tôt, tu chantes, t'accompagnes, tu fais plein de choses, puis d'un coup, pouf, tu décides d'aller étudier la musique. Tu aurais pu aussi continuer sans comme ça, là, de manière autodidacte.
Oui, c'est ça. Mais quand j'étais... Je me souviens quand j'ai eu ce déclic-là, je me suis dit, si j'ai la chance, justement, mes parents m'ont ouvert toutes les portes. Donc, je me suis dit, si j'ai la chance d'avoir cette place-là, je veux vraiment savoir et connaître mon métier pour que je puisse justement participer à n'importe quoi. Donc, dans ce temps-là, vers les 14-15 ans, je faisais beaucoup de chœur. Donc, j'ai commencé choriste pour des artistes comme Lulu Hughes. Par la suite, j'ai été choriste pour Garou. Et Grégory Charles.
Ah ouais, mais alors, excuse-moi de te couper, mais alors, c'est super, vraiment, Garou. Mais Grégory Charles, ça n'a pas dû être si facile que ça, parce que quand il faisait ses tournées où le public choisissait les chansons et tout, fallait être. Ça ne devait pas être si facile que ça, si?
Ben, moi, en fait, j'ai trouvé que ça a été une des meilleures écoles que j'ai faites dans ma carrière, parce que souvent, on faisait des spectacles de. Disons 1h30, et puis après ça, c'était que des demandes musicales. Puis cet homme-là, il est incroyable.
J'ai jamais vu
une personne avec autant d'intelligence musicale. Je le voyais des fois, il faisait des solos de piano à 2 pianos. Il était vraiment, vraiment très intéressant comme artiste. Et puis moi, ça m'a permis justement de... Tu sais, des fois, on a peur, on embarque sur scène, on a peur, on connaît pas assez nos choses, mais là, on n'avait pas le choix de se mettre à nu parce qu'on était vraiment dans des demandes musicales. Donc, ça peut être du jazz, du rock, de l'opéra, du disco, du funk, ça pouvait vraiment être n'importe quoi, là. Donc, ça m'a donné la chance de vraiment bien apprendre mon métier.
En fait, t'es quand même très éclectique, tu sais faire plein de choses.
Oui, puis c'est quelque chose que j'apprécie parce que dès mon jeune âge, je me souviens, mon père me dit, si tu es là, arrange-toi pour rester sur la scène. Si tu montes sur scène, reste là. Puis il me faisait faire n'importe quoi. Va faire des chœurs, va faire des tambourines, va faire aussi, danse un numéro de danse. Donc, j'ai toujours aimé ça. C'est, et puis maintenant, je me souviens même pas d'un spectacle où j'ai attendu mon tour et que je suis montée par la suite. J'ai toujours été là sur scène du début, de la première scène jusqu'à la dernière chanson. Parce que c'est important, moi, je pense, de rentrer dans une bulle musicale avec tout le monde. Puis là, maintenant que j'ai ma passion de percussion...
Mais oui, parce que c'est venu après le piano, parce que tu as commencé avec le piano d'abord, non?
Oui, j'ai commencé avec le piano, puis là, j'étais choriste. Puis justement, je me souviens du moment où j'ai eu le déclic dans ma tête. J'étais au show du Refuge, puis j'ai vu Mélissa Lavergne, qui est la percussionniste de Belle et Bonne, la blonde, et puis oui. Je l'ai vue arriver, puis elle montait ses instruments, puis il y avait les gars de son qui jouaient sur le son de ses instruments, puis elle avait plein de choses à faire. Puis je la regardais, puis moi, j'étais assise avec mon petit calepin de notes, de paroles, puis j'étais là, oh mon Dieu, j'aimerais ça, oui, faire les chansons, mais aussi les jouer, les chanter et les jouer. Donc, il y a vraiment eu un déclic. Après ça, je me suis acheté une paire de bongos. Finalement, j'ai joué des bongos pendant une semaine. Après ça, j'ai joué du kaon. Après ça, j'ai commencé conga. Après ça, j'ai étudié les timbales. J'ai même été dans des percussions qui sont un petit peu plus exotiques, comme du houdou. J'ai essayé de jouer aussi des tablas, des choses comme ça. Donc, vraiment, je trouve ça, c'est tellement le fun pour moi de faire ça. J'apprécie vraiment, vraiment, vraiment le fait de pouvoir jouer des instruments sur scène.
Pour t'avoir vu sur scène en extérieur, je me dis que les percussions, c'est ce qui va presque le mieux avec ton énergie.
Oui, bien, c'est drôle. Jouer des percussions, c'est quand même, c'est très « root », tu sais. Il faut être enracinée. Puis je me souviens, quand j'étais dans ma vingtaine, j'étais un petit peu plus coquette, puis je fixais vraiment sur le paraître. Puis de jouer des percussions, quand tu joues des percussions, t'as chaud. C'est vraiment viscéral.
Oui, ça t'amène plus au cœur de toi.
C'est ça. Fait que j'ai développé un côté plus vrai sur scène avec ça. Puis non, j'aime vraiment ça. Je trouve ça extraordinaire de pouvoir faire ça. Je pense que ça s'entend.
Alors, on va écouter dans ton côté choriste donc une chanson de Steven Levac qui s'appelle « Donne-moi un autre verre ».
Oui.
Et là,
oui,
on entend donc ta voix sur la chanson, puis on va parler de lui dans un instant. Donc, on l'écoute et puis on revient tout de suite après.
Merci beaucoup. À tantôt.
À tantôt.
Dire ce que tu voudras, mais ce que t'as fait, ça se pardonne pas. Je te le jure que j'oublie pas tous les moments qu'on était là. Pogne-moi la main, puis on s'en va. Sans lendemain, on n'y revient pas. Ton odeur sent le bonheur, et ta chaleur remplit mon cœur. Donne-moi un autre verre. Oui, cette nuit, on va se la faire. Je veux pas y retourner dans notre histoire si tourmentée. Donne-moi un autre verre. Oui, cette nuit, on va se la faire. Je veux pas recommencer. On va finir par s'oublier. Sans toi, et toutes les soirs, je les regrette pas. Une autre chanson, la même voix, sur la même route, moi j'embarque pas. Retourne voir si tu t'en vas. Un coup amer que tu me laisseras. Comme les autres fois, j'irai là-bas. Au bout du monde, vivre sans toi. Donne-moi un autre verre. Oui, cette nuit, on va se la faire. Je veux pas y retourner dans notre histoire si tourmentée. Donne-moi un autre verre. Oui, cette nuit, on va se la faire. Je veux pas recommencer. On va finir par s'oublier. Donne-moi un autre verre. Oui, cette nuit, on va se la faire. Je veux pas recommencer. On va finir par s'oublier.
voilà, alors Elisabeth, parle-nous un peu de cette chanson. Et tu ne m'avais pas dit un peu que tu allais faire une tournée avec lui?
Oui, ben c'est ça justement. Je suis en train de la réécouter, puis ça m'a fait voyager dans le moment où on l'a fait. On a fait vraiment une belle journée de studio. Et puis le réalisateur, il m'a vraiment bien guidée dans les harmonies, puis tout ça. Et puis, il y a une émotion spéciale dans cette chanson-là. Oui. Puis effectivement, je suis rendue sa percussionniste et puis sa choriste. On fait aussi des spectacles. On en a fait un à Alfred. Il y en a d'autres qui s'en viennent. J'imagine que sur les réseaux sociaux, vous serez ouverts à aller voir c'est quoi. C'est sur sa page Steven Levac Musique.
Ben oui, parce qu'on va entendre la troisième chanson qui est « Car tu es la plus belle ». Alors là, on ne t'entend pas. Mais par contre, pour ceux qui iront voir le clip, ils ne verront que toi. Voilà.
On peut dire ça. J'étais vraiment contente aussi de faire partie de ce vidéoclip-là. C'était mon premier vidéoclip. Donc, c'était une belle journée. On était dans la nature et puis c'était vraiment très, très plaisant encore une fois.
Oui.
Donc, c'est le fun. C'est des belles chansons. Puis, je suis contente de faire partie de ce projet-là.
Alors, en parlant de projet, est-ce que tu nous annonces de beaux projets pour toi?
Oui, bien, en fait, on s'est... ça fait peut-être un mois que je suis avec Dan Bigras aussi. Je fais sa tournée. Il y a deux formules. Donc, il y a une formule avec un band complet, des musiciens, puis il y a une formule que c'est seulement moi et lui sur scène. Donc, la première fois, j'étais tellement nerveuse parce que je me suis dit, c'est tellement un grand homme, c'est tellement un grand artiste.
Oui.
Et puis, il me prend un peu sous son aile, un peu comme il a fait avec Luc Dufault, avec Loulou, Youse. Et puis là, je réalise qu'il me donne une belle opportunité de vraiment m'épanouir comme musicienne et chanteuse, les deux. Il me pousse et il me propose des choses que j'ai rarement faites sur scène, donc je peux pas vraiment vous donner de scoop. Mais cette année, je vais faire partie du Refuge, puis vous allez me voir dans un rôle que j'ai jamais fait avant. Donc,
tant mieux. Bon, ben écoute.
D'ailleurs, je l'ai pratiqué tantôt. Puis, c'est des choses. Tu sais, je me dis, j'ai eu un bébé, j'ai eu un enfant.
Ben oui.
Depuis que j'ai eu mon bébé, j'ai vraiment l'impression qu'il y a comme une ouverture d'esprit qui est venue en moi. J'ai le goût d'essayer des nouvelles choses. J'ai le goût d'explorer musicalement des nouvelles sphères que j'ai jamais explorées avant. Fait que ça, c'est vraiment. Je suis là-dedans. Donc, là, je suis dans le perfectionnement, dans le travail, dans la rigueur et dans l'expérience musicale.
Ça fait que lui aussi, ça va être pareil, il va baigner dedans, puisqu'il va te voir.
Oui, c'est ça. C'est tellement des belles chansons. Le répertoire de Dan Bigras, il est tellement riche en paroles, en émotions. C'est vraiment super. Je me sens super honorée de faire partie de son projet. Et puis, il m'en apprend tous les jours. On se parle régulièrement. Je lui envoie des vidéos de moi qui travaille des choses. Il me dit quoi faire pour me perfectionner. Donc, encore une fois, je remercie la vie là, de me donner de mettre des gens sur mon parcours qui peuvent me faire évoluer plus rapidement. Là.
C'est un homme talentueux, ça on le sait, mais très généreux également.
Oui, très généreux, surtout avec ce qu'il fait avec le refuge. Et puis, je le regarde parler de cette cause-là. Je sais à quel point ça lui tient à cœur. Et puis, c'est vraiment merveilleux qu'est-ce qu'il réussit à faire avec le refuge depuis maintenant plusieurs années.
Oui.
Moi, j'ai fait le refuge depuis que j'ai eu 16 ans. J'ai commencé comme choriste. Puis là, tu vois, j'en ai 35. Puis, je suis choriste et percussionniste et plus. Donc, c'est vraiment quelque chose de façon annuelle. C'est vraiment un spectacle qui m'a, je sais pas, ça m'a vraiment fait évoluer en tant que personne. Puis, je suis bien contente.
Écoute, on croise les doigts pour toi. Et puis, quand est-ce que tu nous sors un album?
Je ne peux pas vous répondre nécessairement à ça, mais c'est dans les projets.
Mais c'est dans les projets aussi. Alors, parlons un peu du Festival des couleurs.
Oui, donc le Carnaval des couleurs, c'est un carnaval qui va débuter le 8 octobre, donc ce vendredi. Moi, je fais le cocktail d'ouverture. Donc, on a un cocktail, ensuite, on fait notre test de son et puis on fait une performance de 1 heure. Moi, Alexandre Bonneau, qui est un guitariste extraordinaire, et mon père, Normand Brathwaite, qui va être là. Donc, on est vraiment dans... On va faire du funk, du disco, du Motown, toutes des chansons que tout le monde aime.
Oui.
Ce guitariste-là aussi en question, Alexandre, il chante vraiment très, très bien. Donc, on va chanter des chansons ensemble. Et puis, par la suite, il y a plusieurs artistes qui vont le faire. Donc, j'imagine que vous savez un peu c'est qui. Mais il y a ma mère qui va être là. au Carnaval des couleurs. Ouais, elle va faire son propre spectacle à elle avec ses musiciens. Donc, c'est vraiment c'est un carnaval qui prend l'ouverture d'esprit et pour la différence, la musique qui est dans la différence. Donc, des fois, tu peux avoir des bandes de samba, des bandes de cubains, c'est n'importe quel type de musique. Puis moi, je trouve que ça me ressemble vraiment parce que être marraine de quelque chose de musical, oui. C'est vraiment ça, ma tranche, tu sais, vu que je suis super ouverte sur plein de points. Le fait de pouvoir être marraine et puis évidemment, je peux pas parler du carnaval sans parler de mon ami Yannick Degg, que j'adore. C'est un metteur en scène extraordinaire. C'est devenu un ami. Il y a aussi un salon de coiffure qui s'appelle le salon Les Garçons Sculpteurs. Donc, il fait de multiples choses. Et puis, ce que j'aime aussi de lui, c'est que là, il y a des choses, moi, des fois, extravagantes que je veux faire, comme des fois des chorégraphies ou mettre des costumes un peu plus flamboyants. Puis lui, il a toujours été ouvert. On se partage nos idées. On crée des belles choses ensemble. Et puis, le plus que ça va, le plus qu'il y a des artistes de grand nom qui font partie de ses projets. Oui. Puis, il est vraiment... il mérite amplement parce qu'il travaille très, très fort.
Ah ben, ça va être... en tout cas, ça va être un beau party qu'il va y avoir pendant ces 3 jours, hein.
Ah ouais, ça c'est certain, justement. Là, moi, ça se peut que, en tout cas, mes amis, ils vont tous donc je vais recevoir plein de photos, plein de textos probablement. Parce que j'ai parlé de ça à beaucoup de gens. Puis c'est le fun, tu sais, c'est au Complexe des Jardins. On aime ça. C'est une belle place. Donc voilà.
Ah ben, écoute, ça va être super, encore une belle soirée en perspective.
Oui, effectivement.
J'avais peut-être Mathieu qui avait une question pour toi.
Je me demandais pour le bonjour, pour bonjour. L'album qui va peut-être venir. Est-ce que vous composez des chansons ou vous allez être interprète uniquement?
Ben moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est que j'ai composé toutes mes chansons quand j'étais enceinte. Ah. Donc, il y a quelque chose, quand on est en grossesse, on devient, tu sais, lumineuse. Tout le monde nous
dit, oui, ça, c'est vrai.
C'est belle. Tu sais, je sais pas pourquoi, il y a comme une énergie supérieure qui est là. Et puis moi, je passais mes journées à composer des chansons, puis j'en pondais, je n'ai composé environ, je pense, une trentaine durant toute ma grossesse. Il y avait vraiment une magie. Donc, la seule chose que je peux vous dire, c'est les chansons que vous allez entendre, je les ai composées quand William était dans mon ventre. <C'est ça. rire> Il n'y a pas d'autre façon de le dire.
Il sera certainement ravi de le savoir plus tard, qu'il a su inspirer sa maman.
Il sera déjà le premier choriste, il va les connaître.
Quoi?
Vous aurez déjà un premier choriste, il va déjà les connaître.
Oui, c'est ça, il connaît déjà les tunes, il connaît toutes les parts, c'est parfait.
qui sait, imagine qu'un jour il soit ton choriste sur scène.
Ben c'est ça, je trouvais. Je parlais de ça justement tantôt. Quand je chante, il fredonne quelque chose. Puis il y a juste 1 an et 4 mois, là.
Ah oui?
Il sait déjà qu'est-ce qui se passe musicalement. Puis l'autre jour, j'avais mes bongos qui étaient à faire. Je suis en train de jouer. Je pense que j'en ai mis un bout sur mon Instagram. Puis
oui,
je faisais un
beat.
Puis il suivait exactement le même rythme que moi. Puis à un moment donné, il m'enlève. Puis il fait un solo. J'étais bon. Ça commence. Mais c'est ça qu'il va y avoir de la musicalité. Écoute, il y a mon père qui est alentour de lui, ma mère, moi, oui. Tout le monde qui sont mes amis sont artistes d'une certaine façon. Donc la musique fait vraiment partie de ma vie, donc va faire partie de la scène aussi.
Regarde, si ça se trouve, il aura commencé plus tôt que sa propre mère dans son
oui.
monde. Donc là, on peut pas faire plus tôt, hein.
Non.
Alors, écoute, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. C'était super sympa. En tout cas, on te souhaite le meilleur pour tout ce que tu vas avoir à faire qui arrive. Et puis, beau festival. Et puis, tout le monde, ce week-end, 8, 9 et 10. Donc, allez-y, allez écouter tous ces artistes merveilleux qui sont là pour le Festival des couleurs.
Donc, oui,
Elisabeth Pratouet, qui va être là vendredi. C'est ça? Tu vas être là vendredi, toi? Hein?
Oui, je vais être là vendredi à 7h avec mon papa, puis mon guitariste.
Voilà. Ah, ben, ça va être encore un grand moment et je pense qu'il va y avoir foule. Alors, profitons-en, puisqu'on nous permet de ressortir et de revoir des artistes sur scène. Le bonheur!
Oui,
le bonheur! Ça fait du bien.
Oui, vraiment.
Alors, merci beaucoup à toi et bonne continuation. On va se quitter donc avec Steven Levac. On entend « Car tu es la plus belle », mais je vous conseille d'aller voir le clip si vous voulez voir Elisabeth.
Oui.
Au revoir.
Merci à vous. Bonne journée. Bye.
Bye.
s'arrête, même si je peux pas. Ton sourire, c'est ce qui m'aide à côté de toi. C'est comme être sur un nuage et avec toi. Dormir sur une autre plage, c'est pas ta faute d'être aussi belle et si douce et aussi sensuelle. Tes beaux cheveux noirs, puis t'as les plus belles lèvres. On va se revoir, car tu es la plus belle. Car tu es la plus belle. J'y retourne un soir, conduire la vin pour te revoir. Pour toi je vais le faire. Tout est facile, j'aime ça te plaire. Et quand je te vois, j'ai toujours une soif de toi. Je me dis tout bas, my God, elle est faite pour moi. C'est pas ta faute d'être aussi belle et si douce et aussi sensuelle. Tes beaux cheveux noirs, puis t'as les plus belles lèvres. On va se revoir, car tu es la plus belle. Car tu es la plus belle. Car tu es la plus belle. Un livre d'amour, un livre sans fin. Chante avec moi le refrain. Yeah. C'est pas ta faute d'être aussi belle et si douce et aussi sensuelle. T'es beau chez moi, t'as les plus belles lèvres. On va se revoir. Oui, tu es la plus belle. Oui, tu es la plus belle. Car tu es la plus belle.
Je me demande pourquoi tu as choisi cette chanson-là.
C'est la fin de cette émission. Je ne te répondrai même pas, mais je te dis quand même merci Mathieu Tessier d'avoir été à la technique. Merci à Nicolas Vatmart qu'on va entendre bientôt. Dans les autres jours qui nous suivent, j'essaye d'aller assez vite. Merci à toutes et tous, on se retrouve demain. Et demain, nous serons avec la chanteuse Paul Tremblay et on aura aussi Noémie Chélariou. Pour ceux qui la connaissent, vous savez la surprise qu'elle fait à chaque émission quand elle apparaît là. Et pour ceux qui ne la connaissent pas encore, eh ben écoutez, et puis vous verrez ce que ça va être que la surprise. D'accord ? Alors, merci à toutes et tous et je vous dis à demain, même heure, même endroit. Au revoir. Oh, 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 oh.